VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République.
Le monde connaît désormais sa voix et son visage. Le général Abdourahman Tchani est le nouvel homme fort du Niger, après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, qui est lui toujours retenu. Il est 18h30 en temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 28 juillet 2023. Jacques Aristide en direct de Washington. L'actualité encore une fois dominée donc par le putsch perpétré à Niamey. La junte met en garde contre toute intervention militaire étrangère alors que sa prise de pouvoir continue d'être vivement condamnée en Afrique et en Occident. Dernière réaction en date, analyse et témoignages de terrain. Un nouveau point complet à venir ce soir. Au sommaire également, coup d'envoi à Kinshasa des 9e Jeux de la Francophonie. Le général Abdourahman Tchani, chef de la garde présidentielle du Niger, à l'origine du coup d'État ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum, est apparu à la télévision nationale aujourd'hui comme le nouvel homme fort du pays. Il a lu un communiqué en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la junte qui dirige désormais le pays. Le général, proclamé chef de l'État par ses pairs, a justifié le putsch mené mercredi dernier par la dégradation de la situation sécuritaire. Le point avec Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Quelques instants avant sa déclaration, le général Oumarou Abdourahmane Tchani a signé le premier acte juridique de son règne. C'est l'ordonnance qui suspend la constitution du 25 novembre 2010, dissout les institutions qui en sont issues et qui confère au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie les pouvoirs exécutifs et législatifs provisoires. Dans sa déclaration, il a justifié en grande partie son action par la dégradation de la situation sécuritaire avec notamment une approche exclusive de collaboration avec des pays voisins comme le Burkina Faso et le Mali, approche sur laquelle les autorités déchues s'entêtaient. Le général Tchani était jusqu'ici le chef de corps de la garde présidentielle, un poste qu'il occupait depuis 2011. C'est d'ailleurs là que beaucoup dans l'opinion publique l'ont découvert. C'est un homme discret, dur et craint selon des proches à lui. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Peu après l'intervention télévisée du général Tchani, la junte au pouvoir à Niamey a mis en garde contre toute intervention militaire étrangère. Certains anciens dignitaires terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières sont dans une logique de confrontation, affirment les putschistes dans un communiqué en fustigeant une attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse qui n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Nous retrouvons notre correspondant Abdulrazak Idrissa qui nous propose ce micro-trottoir réalisé dans la capitale nigérienne. Le premier intervenant qui s'appelle Aboubakar Sabo est un membre du parti du président Bazoum.
Je vous remercie, la Voix de l'Amérique, de l'opportunité que vous nous offrez pour réagir par rapport à la situation nationale née de la tentative de déstabilisation des institutions de la République orchestrée par un groupe d'officiers factieux. Il vous souviendra que ça fait 72 heures que le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a été pris en otage, lui et sa famille. Au niveau de la majorité, nous avons déjà exigé sa libération peu et simple et le rétablissement dans ses fonctions constitutionnelles. Aujourd'hui, le PNDS a lancé un appel à l'ensemble de ses militants, à l'ensemble des forces démocratiques nigériennes et à la communauté internationale pour se lever comme un seul homme pour faire échec à cette tentative de retour en arrière de notre pays.
Les raisons qui les ont poussés à prendre les armes et renverser ce régime sont des raisons vraiment légales, parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans le savoir que la mauvaise gouvernance est palpable. On n'a pas besoin de porter des verres pour le constater, ni moins, ni plus ni moins, mieux. Nous avons vu comment le tissu social a été menacé. À un certain moment, la justice sociale a disparu. Les textes ont été mis à l'écart. Les gens se faisaient à leur gré. Des terroristes arrêtés puis libérés par voie extrajudiciaire. Le président faisait, le chef d'État faisait à son Il faisait ce qu'il voulait. Et à un certain moment, il est temps de dire non. Et aujourd'hui, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Donc nous le soutenons.
Nous avons entendu des propos du type de mise en place d'une coalition entre le Burkina, le Niger et le Mali sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Mais ce que nous devons relever aussi à ce niveau, c'est que cette lutte contre le terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui. Ces mêmes acteurs qui sont apparus aujourd'hui à la télé, véritablement, ce sont les acteurs qui ont été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Les civils n'ont pas eu vocation dans les régimes passés dans ce pays à prendre des armes pour aller sur le front, comme on l'a vu dans d'autres pays. Alors, si ce sont les mêmes acteurs qui aujourd'hui prétextent cette lutte contre le terrorisme et ils prennent le pouvoir, il faut alors que nous soyons vraiment très vigilants pour que cette lutte contre ce prétexte-là de lutte contre le terrorisme ne leur donne pas une position, une possibilité de s'éterniser au pouvoir comme nous l'avons vu dans les autres pays de la sous-région que je vais taire ici.
Quant à Mohamed Bazoum, le chef de l'État nigérien destitué, il a passé ce vendredi avec sa famille sa troisième journée de séquestration dans sa résidence présidentielle. Il a pu s'entretenir au téléphone avec d'autres dirigeants, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron, qui a condamné avec la plus grande fermeté le putsch et a réclamé sa libération. Un survol des réactions régionales et internationales avec Nanit Talani.
L'Union européenne menace de suspendre l'aide financière, estimant que le renversement du président Bazoum est une atteinte grave à la stabilité et à la démocratie. La France refuse de reconnaître les autorités issues du putsch et considère Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, comme le seul président du Niger. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens et pour le Niger, ainsi que pour toute la région, a relevé le président français. Bruxelles et Paris se disent prêts à soutenir la CEDEAO en cas de sanctions contre les poutistes. Yevgeny Prigozhine, patron du groupe russe Wagner, salue le coup d'État comme une libération des colonisateurs occidentaux du Niger, alors que la diplomatie russe avait déclaré hier jeudi que l'ordre constitutionnel devait être rétabli. L'ONG Human Rights Watch affirme que les droits humains sont menacés par le coup d'État, alors que la junte soutient sa volonté de respecter les dix droits. Le président kényan William Ruto estime que l'Afrique a subi un sérieux revers dans ses avancées démocratiques avec le coup d'État, proposant sa médiation.
La résurgence des coups d'État militaires et des tentatives de subversion de la volonté des peuples sur notre continent bien-aimé exige une réponse unie et globale afin que les responsables soient tenus de rendre compte de leurs actes. Le Kenya est disposé à aider à résoudre le conflit sous les auspices de l'Union africaine si cela est jugé approprié.
L'ONU continue de fournir une aide humanitaire au Niger, mais ses responsables dans le pays ont déclaré ce vendredi qu'ils n'ont eu aucun contact avec l'armée à la suite du coup d'État.
Après le coup d'État, le général Abdourahman Tchani prend donc les rênes d'un Niger déchiré par la violence djihadiste, un pays en proie également à la pauvreté. Le contexte interne qui a conduit au renversement d'un président démocratiquement élu demeure complexe. Eric Manerakidza a joint à Niamey le journaliste nigérien Ibrahim Hamidou.
Bazoum a trouvé le général Tchani à la garde présidentielle. Il l'a confirmé, il l'a maintenu. Donc, on ne peut pas dire que c'est une petite mésentente entre eux qui a amené le renversement du régime. Maintenant, si je me fie à la teneur du discours du général Tchani, je vais dire que ces raisons, ce sont des raisons que tous les Nigériens partagent, que ce soit sur la gestion de l'insécurité, que ce soit sur la question de la gouvernance qui est calamiteuse sous la Renaissance, que ce soit sur la question de la justice sociale, parce qu'ils ont instauré une justice à double vitesse dans ce pays, que ce soit dans la lutte contre l'impunité. Il suffit d'avoir la carte du Parti Rose pour ne pas être puni dans ce pays. Et la corruption, ça, on n'en parle même pas.
Mais le général Tchani, il était là.
Il était là, mais il n'était pas responsable de cette politique-là. Il était chargé de maintenir, d'assurer la sécurité de celui qui conduit cette politique. Mais ce n'est pas lui qui conduisait cette politique.
Mais il y a aussi la responsabilité des militaires. S'il y a un problème au niveau de la sécurité, ce n'est pas le président président ou les autres qui vont se battre sur le terrain, c'est avant tout les militaires.
Oui, mais vous savez, la sécurité est d'abord une affaire politique. C'est d'abord une vision politique qui définit la sécurité. Et dans le discours de Tchani, j'ai été choqué quand il a dit, du moins dans ce discours-là, qu'ils ont l'habitude de prendre des terroristes lourdement armés et le politique leur demande de les libérer parce qu'ils seraient leurs alliés.
Qui est le général de Tchani?
Je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas. Je l'ai toujours vu à distance comme nombre de Nigériens. Je ne peux pas vous parler du général Tchani, je ne le connais pas.
Qu'est-ce que les Nigériens peuvent, disons, attendre des militaires?
Les Nigériens attendent qu'ils se mettent à la résolution de ce que Tchani a relevé dans son discours.
Dénoncer, c'est facile, mais l'exercice du pouvoir, c'est une autre paire de manches. On a vu dans d'autres pays, les militaires qui ont pris le pouvoir, les choses ne se sont pas améliorées pour autant.
Bon, nous, on va juger aux actes. On va juger aux actes posés. Si les actes posés sont conformes au discours qui nous a été tenu, on va continuer à encourager, on va continuer à soutenir. Mais si c'est la continuité, la consolidation, comme ils disent, en ce moment-là, il y a problème. Il y aura problème en ce moment.
Le journaliste Ibrahim Hamidou était en ligne de la capitale nigérienne. Pour leur part, les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest doivent se réunir ce dimanche à Abuja après le coup d'État au Niger. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la présidence nigériane à la tête de la CDAO. Voilà donc pour cette tranche consacrée à ce putsch au Niger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Jeux de la francophonie ont démarré ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils vont prendre fin le dimanche 6 août. Une cérémonie à grand spectacle dans l'immense stade des Martyrs a donné le coup d'envoi de cette 9e édition. Davantage avec Yacouba Ouédraogo.
80 000 spectateurs, capacité maximale du stade des Martyrs, sont venus voir défiler les 3 000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. Ils sont engagés dans 9 compétitions sportives et 11 concours culturels à Kinshasa, plus grande ville francophone du monde avec environ 15 millions d'habitants. La crise rwando-congolaise engendrée par le conflit dans l'est de la RDC avec le M23 s'est invitée au jeu avec une polémique autour de l'absence à la cérémonie d'ouverture de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. Sa porte-parole soutient qu'elle n'est pas venue parce qu'elle n'a pas été invitée. Les craintes pour la sécurité des délégations ont conduit certains pays, comme le Québec, à réduire leur participation ou renoncer à venir à Kinshasa. Environ 4500 policiers et des éléments de la garde républicaine congolaise sont déployés et une entreprise privée est chargée de la sécurité des aires de jeu.
Et voilà pour le journal. Et maintenant, un résumé de l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Les 9e Jeux de la francophonie ont donc débuté à Kinshasa, Yacouba.
Tout à fait. En football, le pays hôte, la République démocratique du Congo, est tombé devant le Bénin 2-0. Dans l'épreuve de basketball entamée hier, la RDC a dominé le Tchad 97-17 avant de s'incliner dans une deuxième rencontre 72-65 contre la Roumanie. Le Sénégal a battu le Bénin 92-29 et le Liban a disposé de la Roumanie 68-57.
Basketball, début ce vendredi de l'Afrobasket Dames à Kigali.
Eh oui, le Nigeria a disposé de la République démocratique du Congo 69-35. Le Mali a battu l'Ouganda 80-66. À suivre Cameroun, Mozambique. Cette 28e édition va se dérouler du 28 juillet au 5 août à la BK Arena dans la capitale rwandaise. 12 équipes réparties dans 4 groupes de 3 se lancent dans la course au trophée. Et pour rappel, les premiers de chaque poule se qualifient directement pour les quarts de finale. Les deuxièmes et les troisièmes des différents groupes s'affronteront dans un tour qualificatif pour les quarts le 1er août.
Des nouvelles du mondial féminin, l'Afrique du Sud et l'Argentine se neutralisent.
Alors qu'elle menait de 2 buts, l'Afrique du Sud s'est faite rattraper par l'Argentine 2-2 à Dundlin. En Nouvelle-Zélande, sur une offrande, la Sud-Africaine Linda Motlao a ouvert le score à la 30e minute avant que sa coéquipière Tembin Gatlana double la mise à la 66e. Les Argentines ont continué de mettre la pression pour recouler au score avec ce nul. Les deux équipes, 3e et 4e du groupe G avec un point, restent toujours en course.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Débuté hier à Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique prend fin ce vendredi. Il s'agit pour Moscou de jouer un rôle prépondérant sur le continent africain, notamment en matière de sécurité et du développement. Au Mali, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est un des alliés sûrs du président russe Vladimir Poutine, la grand-messe tenue par le Kremlin fait réagir. De Bamako, le reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, analyse ce sommet Russie-Afrique. Pour lui, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique géopolitique et géostratégique avec pour but de renforcer la présence russe sur le continent.
Alors, cette rencontre qui a été initiée par la Russie s'inscrit dans une dynamique de ce qu'on pourrait appeler du point de vue géostratégique et géopolitique, la Russie est en train de créer une nouvelle dynamique des relations avec l'Afrique parce que l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents en termes de ressources naturelles le plus puissant dans le monde. Donc, et même en termes aussi sur le plan sécuritaire aussi, l'Afrique a des difficultés par rapport aux luttes contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc la Russie est en train de se positionner aujourd'hui sur ces deux plans, voir dans quelle mesure elle pourra tisser des relations avec les États africains dans le cadre de l'industrialisation de ces ressources naturelles dont l'Afrique dispose et dans le cadre aussi de mettre en place des stratégies de défense contre l'extrémisme violent.
Selon le chercheur, il s'agit pour la Russie de se comparer aux autres puissances que sont les États-Unis et la Chine.
Si vous aussi en train de lutter pour avoir une grande place en Afrique comme ça a été le cas pour les autres États puissants, notamment la France, les États-Unis et la Chine. Donc elle est aussi en train de réchauffer et de dynamiser ses rapports avec les États africains.
Compte tenu des rapports entre la Russie et le Mali depuis quelques années, cette première sortie du président de la transition hors du continent est rassurante aux yeux de certains Maliens. Bintou Koulibaly, citoyenne.
Cette collaboration entre la Russie et l'Afrique en général, et plus particulièrement le Mali, je la salue. Pourquoi ? Pour moi, ça contribue au renforcement de la sécurité. Ça rassure la population malienne par rapport au plan sécuritaire, économique et sur le plan de développement. Je crois que la présence de notre président de la transition à ce sommet va rassurer la population malienne sur lutter contre le terrorisme.
Si une quinzaine de chefs d'État et plusieurs autres ministres et diplomates ont fait le déplacement de Saint-Pétersbourg, pour Boubacar Kanouté, président de l'Union des journalistes reporters du Mali, il est temps que la donne change.
Le sommet Russie-Afrique est un sommet de plus pour les Africains. Et parce que nous avons sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Inde-Afrique et maintenant sommet Russe-Afrique. Moi, en réalité, je pense que c'est une humiliation pour nous, Africains, de chaque fois de faire déplacer les chefs d'État de tout un continent, en tout cas pour aller écouter un seul pays. Et je pense que nos dirigeants doivent aussi revoir ce côté et faire respecter leur peuple.
Pour certains, ce sommet est l'occasion pour les pays africains de poser les jalons de collaboration franche et sincère entre leur pays et la Russie. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Les activistes de l'environnement sont d'avis que les pays africains doivent adopter des stratégies de grande envergure pour protéger les espèces animales et végétales menacées par les conflits armés. Il s'agit là de l'une des recommandations du 31e Congrès international pour la conservation biologique qui vient de s'achever au Rwanda. C'est le reportage de Jean Damasen Manishimwe, notre correspondant à Kigali.
L'Afrique centrale est depuis des années confrontée aux conflits armés avec de graves conséquences sur la biodiversité. C'est le cas notamment de la région des Grands Lacs, en particulier les aires protégées entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.
Ici, il y avait une grande forêt, comme je l'ai dit tantôt, et cette forêt, elle n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une population, on peut dénombrer plus de 5000 personnes dans les cas ici. Et le grand souci, c'est que les gorilles sont délaissés. On ne sait pas actuellement l'état de ces gorilles. On ne sait pas si les familles qu'on a laissées existent encore. On ne sait pas si ces bifflés existent encore. Donc, nous sommes vraiment dans une situation très compliquée.
Ce risque d'extinction de la biodiversité n'est pas la particularité de l'Afrique centrale. Il s'étend aussi à d'autres pays, comme le souligne Ilsa Bossière, responsable de la conservation au niveau de l'Afrique centrale pour la société African Pact.
Les autruches à cou rouge, déjà c'est une sous-espèce en danger critique d'extinction et le nord du Tchad a subi une extermination de la faune, mégafaune charismatique pendant des années suite à un climat de conflits armés très important.
Les participants au 31e Congrès international pour la conservation biologique qui vient de s'achever au Rwanda insistent que les pays africains n'ont d'autre option que prendre conscience de l'urgence de la protection de la biodiversité pour le bien de l'humanité.
Let us be reminded of the profound importance of protecting and preserving.
Rappelons-nous de l'importance profonde de protéger et de préserver notre planète riche en biodiversité. Notre monde naturel, avec ses exigences de la vie et ses écosystèmes interdépendants, est un trésor inestimable que nous devons protéger pour les générations à venir.
That we must safeguard for generations to come.
Les spécialistes de la biodiversité conseillent aux pays africains de travailler de concert en s'appuyant sur les données scientifiques.
En mettant l'accès aux données, les chercheurs peuvent ensuite utiliser les informations pour faire, par exemple, des modélisations de niches écologiques pour savoir où est l'espèce maintenant et où, dans le futur, l'espèce pourrait se trouver.
Le continent africain compte désormais plus de 200 aires protégées pour une superficie totale de plus de 800 000 km², soit près de 15% de la surface terrestre. Jean Damasen Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h/24.
Au cœur du prestigieux programme Yali à Washington, une expérience transformative prend place où de jeunes leaders africains découvrent une Afrique nouvelle, sans frontières et riche en diversité. Dans ce reportage réalisé par Lionel Gaïma et Eric Manirakidza, certains des jeunes rencontrés dans une ferme dans l'État américain du Maryland, venant de 18 pays d'Afrique subsaharienne, témoignent de leur expérience inoubliable et révélatrice. Pour eux, Yali, comprenez Young African Leaders Initiative, ouvre la voie à une Afrique éclairée et tournée vers l'avenir.
Ce programme novateur transcende les barrières géographiques et culturelles, réunissant des esprits passionnés, visionnaires. Yali a été bien plus qu'une simple formation en offrant à ces jeunes Africains une opportunité unique de se connecter et de découvrir l'Afrique d'une manière totalement nouvelle. Ndey Bana Diop, sénégalaise, elle est inspectrice de la jeunesse.
C'est en Amérique que j'ai découvert l'Afrique. C'est en Amérique que j'ai découvert l'Afrique. Je suis sénégalaise, mais je ne suis jamais partie dans aucun pays africain. Donc c'est le moment de découvrir ce qui se fait en Côte d'Ivoire en termes de jeunesse, en termes culturels, en termes politiques. En tout cas, j'échange beaucoup avec eux et j'apprécie vraiment les ondes positives que tous les fellows, en tout cas, partagent.
À travers des interactions fructueuses et des échanges profonds, ces jeunes leaders se découvrent mutuellement, partagent les expériences uniques et s'ouvrent à un monde d'opportunités. Emmanuel Rwamba, du Burkina Faso, est conseiller économique.
Et donc, ce que moi j'ai prévu, eh bien, c'est d'initier des sessions de partage d'expériences avec les collègues au travail. J'ai également une association dont je suis le président. Et je compte initier des sessions également de partage d'expériences pour leur faire profiter de tout ce qu'on a appris ici et leur montrer également qu'eux aussi, en tant que futurs leaders, eh bien, ils peuvent candidater à ce programme-là pour venir y prendre part et eux aussi être grandis sur le plan professionnel.
Ces jeunes leaders sont immergés dans un environnement d'apprentissage collaboratif qui les incite à agir en tant qu'agents de changement dans leur communauté respective. Maounou Bédé, du Bénin, est nutritionniste.
Mon projet ici, c'est de voir comment faire pour aider les communautés à davantage lutter contre la malnutrition, davantage lutter pour avoir une sécurité alimentaire. Donc, je vais commencer à essayer de voir comment on peut implémenter ou bien mettre en œuvre ce processus-là pour petit à petit essayer de mécaniser notre agriculture, même si c'est une petite ferme, un jardin de maison. On va essayer de voir comment mécaniser pour que ça soit beaucoup plus facile en tant que travail et beaucoup plus rentable en matière de production.
Suivez aussi Roselyne Tetchi de la Côte d'Ivoire et les médecins.
Ce programme Yali en tant que médecin m'apporte beaucoup dans ma connaissance de la santé publique et aussi des autres sciences qu'on échange, des autres expertises qu'on échange. Ce programme me permettra de mieux implémenter certains projets localement une fois arrivé à Abidjan. Présentement, je travaille sur un projet qui vise à distribuer des bandes dessinées éducatives sur la santé, particulièrement sur le VIH. Et c'est ce projet que je vais implémenter une fois à Abidjan.
Loin des limitations traditionnelles, le groupe Yali à Washington forge un pont vers une Afrique inspirante où les aspirations collectives se transforment en actions concrètes, façonnant ainsi un avenir prometteur pour le continent.
En République centrafricaine, les électeurs votent ce dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution. Les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter le scrutin. Nathalie Barge a joint à Bangui l'ancienne ministre Constance Gounebana, cadre de l'URCA, le parti de l'opposant Anissé Georges de Loguélé, candidat malheureux à la présidentielle de 2015 contre Faustin Archange Touadéra.
Nous, on est contre ce référendum-là, cette nouvelle constitution-là. C'est un projet qui suscite déjà beaucoup d'interrogations. C'est une constitution, au lieu de rassembler les Centrafricains, ça va plutôt diviser. Parce qu'il y a des notions qui ont été introduites, cette notion de centrafricanité, des notions de centrafricains d'origine et des notions de binationalité. Il n'y a pas que ça. Déjà, au départ, dans l'ancienne constitution, le mandat dure 5 ans, renouvelable une fois, et au bout de 10 ans, vous partez, vous laissez la place à une autre personne. Et dans ce projet de nouvelle constitution, le mandat est passé de 5 ans à 7 ans, et la limitation de mandat n'existe plus. Ça veut dire que si l'actuel président veut se présenter, il a tout le loisir de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ça va être sous le sceau de la nouvelle constitution. Donc ça veut dire que le compteur sera remis à zéro. Donc les deux autres mandats ne compteront plus. Donc pour lui, le nouveau septennat comptera comme le premier mandat. Cette constitution est taillée tout simplement sur mesure pour abattre la démocratie, pour abattre l'alternance et pour ouvrir la voie à l'actuel président de la République de rester à vie président.
Et si le oui l'emportait au référendum, alors quelle serait la position de l'URCA ?
De toutes les manières, nous on a eu cette lecture depuis. Là, il y a beaucoup de personnes qui découvrent le contenu de ce projet de nouvelle constitution. Mais il y a un an, tous les partis de l'opposition démocratique savaient que le projet qui était initié au niveau du pouvoir, c'était pour permettre au président de faire un troisième mandat. Là, on ne se trompe pas non plus sur le résultat, parce qu'on vous dit que tout se fait un peu au forceps, tout se fait un peu sans transparence. Donc tout le monde s'attend à ce oui. On sait que les résultats sont déjà en téléchargement, c'est déjà prêt. Donc tout ce qui concerne les élections, tout ça, c'est juste une mise en forme.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Un grand merci à vous et à toute l'équipe de la rédaction et de la production. La mise en onde a été assurée par Gisèle Morissin. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Take care. À très bientôt.